cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 18 janvier 1994.
Quelques petites questions. Pouvez-vous préciser comment, à la suite de l'induction de la substance, mon intelligence est amenée à se poser la question de l'individuation ? Parce que nous partons du jugement d'existence. L'aller et le retour. On ne quitte jamais le jugement d'existence en philosophie. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, l'abstraction n'est pas une séparation. Abstraire, c'est laisser tomber certaines choses. Mais on ne coupe pas le point de départ. On part du jugement d'existence, ceci est, ou je suis. Et donc le ceci est, qui, dont on cherche, ce qui est premier dans l'ordre de la détermination, selon la forme, ne se sépare pas de l'exister. Il se distingue, puisque on regarde le point de vue de la détermination, le plus loin possible, dans ce qu'il a de radical, dans ce qu'il a de premier, mais on ne quitte pas l'exister. Or, l'exister est concret. Une réalité qui existe, qui soit universelle, elle a toujours un mode concret. Alors, vous voyez la question tout de suite, puisque je saisis la substance première selon la forme, quel est le lien qui existe avec l'existé, puisque la substance selon elle-même existe, elle subsiste, elle a un lien de nécessité avec l'existé. Comment se réalise ? Il y a un double comment, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a le comment au niveau de l'être et le comment au niveau physique. Au niveau devenir. Mais on saisit l'être dans le devenir et à travers le devenir. Donc là encore, le dépassement du devenir ne fait pas l'opposition à l'égard du devenir. Et le dépassement à l'égard de l'explicitation du singulier ne fait pas la séparation du singulier. Et c'est peut-être là où on saisit le mieux comment chez Hegel, puisque c'est son problème, c'est le problème de tous les philosophes, de toutes les philosophies. C'est le problème de la science et de la sagesse. La science est universelle. La science ne saisit pas le concret. La psychologie ne saisit pas le concret. Elle demeure dans l'universel. Comme toute science. C'est ça qui... Seule la sagesse peut rejoindre la personne. Et la personne est concrète et individuelle. Elle existe par soi. Le troisième catoto d'Aristote, le catoto solitaire. Et le solitaire, c'est celui qui justement subsiste en lui-même. Autrement, vous ne pouvez pas être solitaire si vous ne subsistez pas en vous-même. Vous avez besoin du frigidaire. Vous avez besoin de la nourriture. veut dire? C'est le divisible. C'est la potentialité. Donc la potentialité n'est pas singulière. Puisque seul le singulier existe. Il y a le troisième katoto du solitaire. Le singulier existe. Et seul le singulier existe. Alors la matière, elle est source d'indétermination. Oui, la matière comme principe, comme source de tout conditionnement. Vous voyez, je vais dire quelque chose qui vous fera bondir si vous avez le sens métaphysique. La matière est principe de conditionnement. Vous voyez, alors vous liez le principe et le conditionnement. Et c'est ça la matière. Parce que la matière n'est pas intelligible par elle-même. Elle est toujours intelligible par la forme. C'est la forme qui me permet de toucher la substance de la matière. La matière en soi, c'est le chaos. Alors, voyez, vous dites que la matière, l'individu, la substance, est-ce à dire que celle-ci n'est pas singulière par elle-même? La substance est source de toute détermination. Or, le singulier implique la détermination. C'est sûr. J'avais vu un singulier non déterminé. Donc le singulier implique la détermination. Et la détermination vient de la substance. Alors c'est ce lien entre la substance et la matière qui fait l'individuation. Parce que c'est la détermination dans la matière. Donc dans l'indéterminé. On comprend très bien comment à partir de là, on pose la contradiction, parce que c'est à la fois déterminé et indéterminé. L'individu implique la matière qui est indéterminée. L'individu implique la substance qui est déterminée. Alors vous savez, dans l'individu, le déterminé et l'indéterminé. Rien n'est plus contradictoire que le déterminé et l'indéterminé. Et le singulier est au-dessus de cette contradiction. Il fait la synthèse de cette contradiction. Et c'est vrai, l'individu est la synthèse de la contradiction déterminée et indéterminée. Réfléchissez sur votre individuation, quoi. Vous êtes des êtres individués. Vous êtes des êtres individués, c'est-à-dire vous avez en vous une détermination et vous avez en vous la distinction à l'égard de l'autre. Mais c'est là où on comprend ce que ça veut dire quand au point de vue psychologique on parle de fusion. On perd son individualité dans la fusion. Et que la fusion, psychologiquement parlant, parce que ça n'existe qu'au niveau psychologique, la fusion, dans l'imaginaire. C'est la synthèse imaginaire, la fusion. Je suis fusionné, mais on est fusionné avec un autre. Mais c'est imaginaire. Vous n'êtes jamais fusionné avec un autre. Plus vous êtes uni avec quelqu'un, plus vous êtes distinct de lui. Il n'y a que l'imagination qui fait la fusion. On comprend très bien comment la fusion vous met dans l'imaginaire. Peut-on dire que dans la substance, il y a deux nous? Oui, la substance à l'égard de l'être subsiste. Exister dans un corps à l'égard saisissons l'être à partir du devenir et dans le devenir. Et nous retrouvons le devenir à partir de l'être dans l'individuation. Un individu est toujours celui qui devient. L'individuation pour nous, hein. Là on se posera la question, est-ce que je peux dire que Dieu est individué? Ça n'a pas de sens, il est simple. Alors là, vous savez ce que c'est que la simplicité. La simplicité, c'est la détermination substantielle qui subsiste par elle-même dans sa détermination la plus foncière et qui n'a besoin d'aucun autre pour être individué. La substance, notre substance, parce qu'elle est principe et qu'elle n'est pas l'être absolu, a besoin de la matière pour être individué. La matière va expliciter la détermination de la substance dans l'individu. Dans l'individu qui est ce qui est distinct des autres et indivisé en soi. Il y a deux points de vue de l'individu, toujours. Il est distinct des autres et il est indivisé en soi. Indivisé en soi grâce à la substance, distinct des autres grâce à la quantité. Alors, nous continuons. Alors, ici, je vais faire un petit nota bene, si vous voulez, parce que c'est un problème quand même très intéressant qui a suscité chez les scolastiques des querelles, j'allais presque dire indéfinies. On a opposé Thomas d'Aquin et Don Scott. Bienheureux maintenant, c'est intéressant de voir deux bienheureux qui se disputent pour l'individuation. Alors, on pourrait faire un guignol métaphysique extraordinaire, si vous voulez avoir. Pour Thomas d'Aquin, nous allons voir le point de vue de l'individu se fait par la matière. Il faut bien comprendre, par la matière. Et chez Don Scott, l'individu se fait par la substance. En réalité, il n'y a pas d'opposition, il y a deux points de vue différents. Mais il y a toujours chez Don Scott cette erreur très fondamentale. C'est que toute distinction formelle implique une séparation. Et c'est ce qu'on retrouve chez les modernes. Les modernes sont Don Scott. C'est pour ça qu'on a canonisé, vous voyez. Les modernes font que la distinction devient une séparation. Ce par quoi le singulier, l'individu d'individu, l'etchitas, la blancheur. Et c'est le hec, il y a le hoc, ceci. Et puis le hec, féminin. Alors vous passez ce par quoi l'individu d'individu. Alors, c'est le principe formel, ce par quoi. Alors vous cherchez le principe formel de l'individu et vous dites l'etchitas. Et l'etchitas représente l'ultime moment de la détermination. Et donc, c'est la détermination qui rejoint ou qui assume l'individu. Vous allez saisir, hein? L'individu, la cause matérielle, la cause formelle, la cause formelle, c'est la substance, puisque le principe de toute détermination. Dans le monde physique, les anges n'accaparent pas. Ils sont toujours les mains pures, puisqu'ils n'en ont pas. Donc, tandis qu'au contraire, celui qui accapare, c'est la causalité matérielle. Et la causalité matérielle accapare. Elle freine. Elle ramène à soi. Puisqu'elle n'a rien. Sans aucune détermination, comme la pure puissance. Alors, quelle est la première détermination de la substance, de la matière? La première détermination, c'est la quantité. La première détermination de la substance, c'est la quantité. Et c'est pour ça qu'on dira que ce que dira saint Thomas, je vous lirai les textes après, mais il faut d'abord les comprendre avant de les lire. Comprendre saint Thomas avant de le lire. Si on ne comprend pas saint Thomas avant de le lire, on ne le comprend jamais. Alors il faut comprendre, puisque toute la métaphysique est présente. Il est théologien. Et le théologien présuppose la philosophie. Alors, il faut donc la philosophie avant la théologie. Autrement, vous n'y comprenez rien. La première détermination de la pas la pure matière, c'est la matière quantifiée. Or, la quantité est reliée à la substance, puisque la substance est principe de toute détermination. Et parmi les déterminations, il y a la quantité. Qu'est-ce que c'est que la quantité ? C'est le divisible. On le verra ça. C'est le divisible. Alors, vous voyez, la rencontre de la cause matérielle et de la cause formelle se fait à travers la quantité. Et la quantité présuppose la matière. C'est très, très curieux, ça. Alors, on comprend que si je veux préciser où se situe l'individuation, je dis c'est la matière quantifiée. Et ça, c'est le premier comment. C'est le premier moment du devenir. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait devenir. Pour que le devenir puisse exister, il faut la quantité. S'il n'y a pas de la quantité, il n'y a pas de devenir. On comprend très bien. Une détermination chasse l'autre détermination antécédente. C'est ça la quantité, le divisible. Alors, Don Scott, le docteur subtil, se place du côté de la substance. Quelle est la dernière détermination de la substance? C'est la quantité. L'etchidas. Je sépare la quantité de son enracinement dans la matière. Et je dis l'etchidas. Vous voyez, Don Scott formalise en séparant la quantité de la matière. Et je dis que l'individuation, c'est la détermination poussée à l'extrême. Or, la détermination poussée à l'extrême, c'est bien la quantité. Vue du côté de la substance, l'etchidas. Je crois que c'est comme ça que Don Scott conçoit. Alors ça, c'est intelligible. Mais voyez, le point de vue, ça devient très délicat aussi. Quand je regarde pour l'homme, quelle est ma substance ? C'est l'âme. C'est l'âme. Mon âme est individuée par mon corps. C'est l'âme reçue dans le corps, créée par Dieu dans le corps, qui est individuée. Et le corps va jouer ce rôle de faire que l'âme, par le fait même, étant individuée, va pouvoir se distinguer des autres. Mon âme dans mon corps se distingue de la vôtre. Alors que mon âme, spécifiquement, est la même que la vôtre. Nous avons tous la même âme spécifiquement. Puisque nous faisons tous partie du genre humain. Alors voyez, le problème très délicat voyez le lien avec ton Scott. C'est très très curieux ça. Et c'est très intéressant, c'est sûr ça. Alors le problème de là, vous voyez, est-ce que l'homme et la femme, qui sont distinctes quant à leur corps, ont-ils la même âme? Jusqu'où le point de vue spécifique qui relève de la cause formelle va-t-il aller dans l'âme humaine? Et jusqu'où le point de vue du corps individualisé va faire que l'âme de l'un n'est pas l'âme de l'autre? On comprend très bien que les théologiens se sont c'est la victoire de la forme sur la substance. La victoire de la forme sur la substance, c'est la beauté. C'est la splendeur. Alors pour Don Scott, la victoire de la forme sur la matière est telle que je parle des Chaitas. Et les Chaitas, c'est l'individu. Alors pour Thomas d'Aquin, non. La matière ne sera jamais entièrement vaincue par la forme. La matière restera jusqu'au bout matière et distincte. Mon corps restera jusqu'au bout distinct de mon âme. Ah, vous voyez, c'est très intéressant parce que par la perspective de Don Scott, il n'y a plus de comment. Donc la psychologie n'existe plus. Puisque tout vient de la chaitas, tout vient de la forme. Tandis que dans une perspective réaliste, on respecte le comment. Le comment est irréductible au diesti. Il y a quelque chose d'irréductible. Et parce qu'il y a quelque chose d'irréductible, il y aura toujours, dans tous nos actes, dans toute notre vie, quelque chose irréductible à la finalité. Et ce quelque chose irréductible à la finalité, c'est le comment. Qui provient du corps, qui provient de la matière. Alors, puisque c'est irréductible à la finalité, je peux l'étudier en soi. D'où la psychologie. Vous voyez ? Alors, je veux dire, attention, parce que la matière séparée de la forme est inintelligible. Vous êtes dans le hasard. Or, pour qu'il y ait science, il faut qu'il y ait loi. Il faut quelque chose de nécessaire. Ah ! Donc, c'est pas la pure matière. C'est la matière transformée par la forme. Et la forme, c'est la finalité. Donc, le comment, au plan psychologique, ne peut se comprendre que dans la lumière de la finalité. Une psychologie coupée de la finalité, elle idéalise le comment, puisqu'elle le sépare de la finalité. Et que c'est la finalité qui lui donne son intelligibilité. Alors, je commence à comprendre que dans la perspective de Don Scott, il n'y a pas de comment distinct et irréductible. Donc pas de psychologie. Et quand on supprime la psychologie complètement, il y a une vengeance de la psychologie. C'est ça qui est très grave. Et qui alors s'impose irréductible à la finalité. Et ayant son intégrité par elle-même. Oui, c'est la fameuse dialectique de l'esclave et du maître. La dialectique de l'esclave du maître, au point de vue hegelien. C'est ça que Don Scott et Hegel se tiennent et s'opposent. Rien n'est plus opposé à Hegel que Don Scott. Et pourtant, Don Scott appelle Hegel. Rien n'est plus opposé que la dialectique du maître et l'esclave, ils sont contraires. Dans la perspective aristotélicienne, le maître et l'esclave ne sont pas contraires, puisqu'ils ont même finalité. L'esclave travaille pour le maître, et le maître travaille pour l'esclave. Donc ils ont même finalité. Et ayant même finalité, il n'y a plus d'opposition, de contradiction. Il y a quelque chose de commun. Tandis que s'il n'y a rien de commun, il s'oppose violemment d'une façon contradictoire. S'opposant d'une façon contradictoire, c'est la guerre. Et la guerre fera la victoire de l'esclave. Et l'esclave prendra la place du maître. Voilà toute la dialectique politique marxiste. chose d'irréductible à la forme. Parce que elle est la fin, la finitude, ce par quoi la forme est restreinte. Elle est individualisée. Et être individualisé, ce n'est plus le caractère spécifique. Le caractère spécifique de l'homme, c'est d'être intelligent. Le caractère spécifique de l'homme, c'est d'être finalisé. Ah, mais la matière, elle est le principe de l'errance. Elle est ce qui va s'opposer constamment à la finalité. C'est source du comment. Et le comment, radicalement et révolutionnaire par rapport à la finalité. Vous voyez, Guignol. Le comment est révolutionnaire par rapport à la finalité. Il s'oppose à la finalité. Et pourtant, le comment doit être dominé par la finalité. C'est vrai, il doit être dominé par la finalité. Puisque je n'atteins ma finalité qu'en respectant le comment.
Se tient là. Et c'est le problème très délicat
la matière. Et c'est très bien qu'il ne peut pas s'en passer. Et que l'idée demande de s'incarner. Et que l'incarnation de l'idée dans la matière fait qu'il y a quelque chose de nouveau d'irréductible à la forme. Et que l'artiste sera lui-même très étonné. Oh, c'est curieux. Cette idée que j'ai contemplée dans toute sa pureté, à cause de la matière, elle devient un petit nain. La matière l'a contractée. Et l'a contractée d'une manière telle que la splendeur de la forme disparaît. Et je retrouve quelque chose de tout amoindri, tout diminué. C'est la victoire de la matière. C'est l'esclave qui dit « Ah, voilà, j'ai la place du maître. » Ça, c'est cette chose très mystérieuse, hein, du rôle du comment, qui est le rôle de la matière. Dans cette perspective, lisons quelques textes de Thomas d'Aquin. Vous trouverez ça donc dans l'Être, page 436. Saint Thomas, en théologien, traite du principe d'individuation, à la fois pour mieux saisir ce qui fait que l'individu est individu, et pour expliquer la connaissance que nous pouvons en avoir. Ceci spécialement pour mieux comprendre le mystère de Dieu et de sa providence et du mystère du Christ. Et je crois que c'est ça l'individuation chez saint Thomas. Et si nous voulions mieux le comprendre, on verrait le lien entre l'individu et la personne. C'est comme ça que Maritain a distingué et à séparer l'individu de la personne, alors qu'il ne faut pas les séparer. Et Maritain est un peu Don Scott en faisant ça. C'est du Don Scott. Mais c'est du Don Scott anti-Don Scott. Dans son commentaire du De Trinitate Boes, une œuvre de saint Thomas, commentaire du De Trinitate Boes, une fois, faites de temps en temps une petite visite à la bibliothèque, hein, et regardez toutes les œuvres de Thomas d'Aquin pour les avoir vues dans votre main, et puis vous regardez De Trinitate Boes, tiens, De Trinitate Boes, le traité de la très sainte Trinité de Boes. Boes, c'est quoi Boes? Boes, c'est un philosophe, un pieux laïque, un Nicodème. Boes. Oh, il est très brave, Boes. Et saint Thomas l'a commenté, il lui a fait un très grand honneur. Boes a écrit le De Consolatione Philosophiae, de la consolation de la philosophie. Quand vous êtes dans le maras, faites de la philosophie, c'est la grande consolation. On voit ce philosophe seul, solitaire, qui de temps en temps a une espèce de d'angoisse, déconsolationné. Comment est-ce qu'on allait faire un peu de philosophie? Quand on fait de la philosophie, on quitte l'angoisse. C'est une manière très élégante de sortir de l'angoisse sans prendre des produits pharmaceutiques. Je comprends que très souvent, le pharmacien est anti-philosophe. Parce que c'est le rival. Alors, dans son commentaire du traité de Boes, qui rassemble des éléments déjà apparus dans le DNT Essentia, c'est la première œuvre de saint Thomas philosophe, et le commentaire des sentences. Donc vous avez le DNT Essentia, le commentaire des sentences, et puis le traité de Boes qui arrive après. Thomas d'Aquin aborde ainsi le problème. survenir des accidents. Elle n'est pas une simple distinction accidentelle. Elle est plus profonde et plus enracinée. Il oppose à cette théorie une autre série d'arguments qui commence par invoquer l'opinion de Porphyre. Pour ce dernier, l'individu résulte de l'assemblage collectio des accidents qui ne peuvent se trouver dans un autre. Voilà situées les deux positions philosophiques les plus opposées concernant le problème de la structure de l'individu. On voit bien la difficulté du problème, car certaines raisons inclinent à affirmer que le principe d'individuation doit s'enraciner dans la matière, et d'autres inclinent à affirmer que seule l'originalité des accidents peut l'expliquer, puisqu'il ne s'agit plus d'une distinction spécifique, d'une distinction substantielle, mais numérique, donc accidentelle, relativement à l'espèce. Mais Saint-Thomas fait ça admirablement, il montait deux grandes positions de l'individuation. L'un qui dit l'individu, collection des individus, collection des accidents, l'autre dit pas du tout. L'individuation touche la personne, touche la substance. Mon individuation, c'est pas une série d'accidents. Voyez, on touche fondamentalement un des problèmes actuels de la sexualité. C'est ça qui est très curieux et c'est ça qui est intéressant à voir. Le problème de l'individuation va pouvoir répondre à ceux qui font de la sexualité le problème humain fondamental. La psychologie tend à ça. La sexualité explique tout. Et puis, l'autre problème, au contraire, qui veut dire, mais pas du tout, c'est accident.